Paul Valéry, Hypothèse. Désormais, quand une bataille se livrera en quelque lieu du monde, rien ne sera plus simple que d'en faire entendre le canon à toute la terre. Les tonnerres de Verdun seraient reçus aux antipodes. On pourra même apercevoir quelque chose des combats et des hommes tombés à 6 000 miles de soi-même, 300 de seconde après le coup. Mais sans doute, des moyens un peu plus puissants, un peu plus subtils, permettront quelque jour d'agir à distance non plus seulement sur les sens des vivants, mais encore sur les éléments plus cachés de la personne psychique. Un inconnu, un opérateur éloigné, excitant les sources mêmes et les systèmes de vie mentale et affective, imposera aux esprits des illusions, des impulsions, des désirs, des égarements artificiels. Nous considérions jusqu'ici nos pensées et nos pouvoirs conscients comme émanés d'une origine simple et constante, et nous concevions, attachés jusqu'à la mort à chaque organisme, un certain indivisible, autonome, incomparable, et pour quelques-uns, éternel. Il semblait que notre substance la plus profonde se fût une activité absolue, et qu'il résidât en chacun de nous je ne sais quel pouvoir initial, quel quantum d'indépendance pure. Mais nous sommes dans une époque prodigieuse où les idées les plus accréditées et qui semblaient les plus incontestables se sont vues attaquées, contredites, surprises et dissociées par les faits, à ce point que nous assistons à présent à une sorte de faillite de l'imagination et de déchéance de l'entendement, incapable de nous former une représentation homogène du monde qui comprenne toutes les données anciennes et nouvelles de l'expérience. Cet état me permet de m'aventurer à concevoir que l'on puisse, de l'extérieur, modifier directement ce qui fut l'âme et fut l'esprit de l'homme. Peut-être notre substance secrète n'est secrète que pour certaines actions du dehors, et n'est-elle que partiellement défendue contre les influences extérieures. Le bois est opaque pour la lumière que voient nos yeux. Il ne l'est pas pour des rayons plus aigus. Ces rayons découverts, notre idée de la transparence en est toute changée. Il y a des exemples si nombreux de ces transformations de nos idées et de nos attentes que je me risque à penser ceci. On estimera un jour que l'expression « vie intérieure » n'était relative qu'à des moyens de production et de réception classique, naturel s'il en veut. Notre moi, peut-être, est isolé du milieu, préservé d'être tout ou d'être n'importe quoi, à peu près comme l'est dans mon gousset le mouvement de ma montre. Je suppose, je crois, qu'elle conserve le temps en dépit de mes allées et venues, de mes attitudes, de ma vitesse et des circonstances innombrables et insensible qui m'environne. Mais cette indifférence à l'égard du reste des choses, cette uniformité de son fonctionnement, n'existe que pour une observation qui ne perçoit pas ce même reste des choses, qui est donc particulière et superficielle. Qui sait qu'il n'en est pas de même de notre identité? Nous avons beau invoquer notre mémoire, elle nous donne bien plus de témoignages de notre variation que de notre permanence. Mais nous ne pouvons, à chaque instant, que nous reconnaître et que reconnaître comme nôtres les productions immédiates de la vie mentale. Nôtre est ce qui nous vient d'une certaine manière qu'il suffirait de savoir reproduire ou emprunter ou solliciter par quelque artifice, pour nous donner le change sur nous-mêmes et nous insinuer des sentiments, des pensées et des volontés indiscernables des nôtres, qui seraient, par leur mode d'introduction, du même ordre d'intimité, de la même spontanéité, du même naturel et personnel irréfutable que nos affections normales, et qui seraient toutefois d'origine tout étrangère. Comme le chronomètre placé dans un champ magnétique ou soumis à un déplacement rapide change d'allure sans que l'observateur qui ne voit que lui s'en puisse aviser, ainsi des troubles et des modifications quelconques pourraient être infligés à la conscience la plus consciente par des interventions à distance impossibles à déceler. Ce serait là faire en quelque sorte la synthèse de la possession. La musique, parfois, donne une idée grossière, un modèle primitif de cette manœuvre des systèmes nerveux. Elle éveille et rendort les sentiments, se joue des souvenirs et des émotions dont elle irrite, mélange, lie et délie les secrètes commandes. Mais ce qu'elle ne fait que par l'intermédiaire sensible, par des sensations qui nous désignent une cause physique et une origine nettement séparée, il n'est pas impossible qu'on puisse le produire avec une puissance invincible et méconnaissable, en induisant directement les circuits les plus intimes de la vie. C'est en somme un problème de physique. L'action des sons, et particulièrement de leurs timbres, et parmi eux les timbres de la voix, l'action extraordinaire de la voix est un facteur historique d'importance, fait pressentir les effets de vibrations plus subtiles accordés aux résonances des éléments nerveux profonds. Nous savons bien, d'autre part, qu'il est des chemins sans défense pour atteindre au château de l'âme, y pénétrer et s'en rendre maître. Il est des substances qui s'y glissent et s'en emparent. Ce que peut la chimie, la physique des ondes le rejoindra selon ses moyens. On sait ce qu'ont obtenu des humains les puissants orateurs, les fondateurs de religions, les conducteurs de peuples. L'analyse de leurs moyens, la considération des développements récents des actions à distance, suggèrent aisément des rêveries comme celle-ci. Je ne fais qu'aller à peine un peu plus loin que ce qui est. Imagine-t-on ce que serait un monde où le pouvoir de faire vivre plus vite ou plus lentement les hommes, de leur communiquer des tendances, de les faire frémir ou sourire, d'abattre ou de surexciter leur courage, d'arrêter au besoin les cœurs de tout un peuple serait connu, défini, exercé? Que deviendraient alors les prétentions du « moi » ? Les hommes douteraient à chaque instant qu'ils seraient source d'eux-mêmes, ou bien des marionnettes, jusque dans le profond du sentiment de leur existence. Ne peuvent-ils déjà éprouver quelquefois ce malaise? Notre vie, en tant qu'elle dépend de ce qui vient à l'esprit, qui semble venir de l'esprit et s'imposer à elle après s'être imposée à lui, n'est-elle pas commandée par une quantité énorme et désordonnée de conventions dont la plupart sont implicites? Nous serions bien en peine de les exprimer et de les expliquer. La société, les langages, les lois, les mœurs, les arts, la politique, tout ce qui est fiduciaire dans le monde, tout effet inégal à sa cause exige des conventions, c'est-à-dire des relais, par le détour desquels une réalité seconde s'installe, se compose avec la réalité sensible et instantanée, la recouvre, la domine, se déchire parfois pour laisser apparaître l'effrayante simplicité de la vie élémentaire. Dans nos désirs, dans nos regrets, dans nos recherches, dans nos émotions et passions, et jusque dans l'effort que nous faisons pour nous connaître, nous sommes le jouet de choses absentes qui n'ont même pas besoin d'exister pour agir.